commence par Jean-Charles Dufeu, qui va nous expliquer qu'il est arrivé depuis peu dans notre région, donc dans quelles conditions. Et en plus, je pense que c'est un symbole, entre guillemets, intéressant de lien entre l'entreprise, on peut dire, un peu classique, et la culture. Voilà.
Ouais, bonjour à tous. J'ai fait fuir l'auditoire avant même de commencer. Je ne sais pas comment le prendre. Je confirme ce que vient de dire Jacques. Je vais vous parler un peu de mon parcours, de mon cheminement, pour reprendre ce mot qui me plaît bien, qui est un cheminement entrepreneur, et entrepreneur en milieu de la culture en l'occurrence, puisque j'ai créé une entreprise en 2011, qui est une SARL, qui à l'époque était donc une société constituée de deux associés qui avaient pour objet de faire de la production artistique et de l'accompagnement artistique, je vais y revenir tout à l'heure. Ce qu'on m'a expérimenté pendant quelques années de façon assez tâtonnante, déambulatoire, on a essayé des choses à l'époque un peu nouvelles, notamment en termes de financement, puisque c'est une des clés de beaucoup de choses, mais notamment des projets culturels, et l'une de nos idées à l'époque, qui donc en fin 2010, début 2011, était relativement nouvelle, c'était l'idée de, d'associer le plus grand nombre à nos projets. Donc, l'idée de financement participatif qui était balbutiant, on va dire, à cette époque-là en France, mais déjà relativement lancé aux États-Unis, développé par des modèles comme Kickstarter, dont se sont inspirés en fait plusieurs plateformes qui, ces cinq dernières années, ont un peu explosé. Et que vous connaissez sans doute, des plateformes généralistes de crowdfunding type Ulule ou KissKissBankBank. Et en fait, nous, on voulait faire reprendre un petit peu ce qui nous semblait être les bonnes idées de cette pratique nouvelle de financement participatif. Et en les adoptant un petit peu à notre sauce. Et l'idée, donc, c'était de effectivement de proposer un système de fonctionnement qui puisse associer le plus grand nombre à la production et au financement de nos projets. Mais la clé, c'est effectivement d'avoir quand même une espèce de mainmise éditoriale, ou du moins d'avoir une vraie ligne et un vrai positionnement artistique dans le choix de nos projets, dans la façon dont on les accompagne, dont on accompagne aussi nos artistes, et dont on présente tout ça. En fait, on s'est développé comme un label, comme une petite maison de production artistique avec peu de projets. L'ambition, ce n'était pas forcément de multiplier les projets, mais d'en faire peu, mais de faire des projets auxquels on croit, de les accompagner vraiment, de les faire de la meilleure manière possible, tout en essayant donc d'élargir le fonctionnement, et notamment via le financement. C'est ce qu'on a fait donc pendant quelques années. Ce qui est assez intéressant pour recouper avec la thématique du jour, c'est que moi, ça m'a donné l'occasion, en fait, et ça me donne toujours l'occasion, d'ailleurs aujourd'hui, de rencontrer pas mal de profils différents parmi les artistes qu'on accompagne et qu'on côtoie, qui sont notamment des artistes du monde de la musique, qui avaient le grand avantage d'être en crise avant les autres. Et du coup, de devoir rebondir et de devoir inventer un peu des nouvelles façons de procéder. Ce qui, en un sens, est une crise peut-être, mais aussi une opportunité, aussi une chance pour, j'imagine, pour des gens comme moi qui, justement, doivent essayer d'inventer des choses nouvelles. Et donc, ça m'a donné l'occasion de rencontrer pas mal de nouveaux profils d'artistes, notamment de musiciens, qui sont un peu des profils d'artistes créateurs, mais aussi entrepreneurs, par la force des choses, sont finalement un peu obligés de prendre en main leur carrière, leur projet, leur démarche artistique à la manière d'un entrepreneur. J'entends par là que à l'époque où on pouvait miser sur... L'époque où les artistes pouvaient compter sur un label un peu providentiel ou un manager ou une rencontre ou un mécène ou que sais-je qui intervenait de manière un peu magique et puis les propulsait sur les devants de la scène en faisant un peu le boulot pour eux, bah, c'est une époque un peu révolue ou du moins c'est un fantasme qui a vécu et qui aujourd'hui est quand même assez vraiment du domaine du fantasme plus que du domaine de la réalité. Et la plupart des artistes avec lesquels moi je travaille, en tout cas, en ont conscience, et ont conscience que les choses ne vont pas bouger si eux-mêmes ne sont pas fortement moteurs de leurs actions. Et moi, je trouve ça assez stimulant et assez passionnant, en fait, de constater cette transition qui s'opère depuis... Enfin, déjà, je trouve, depuis quelques années où je suis immergé là-dedans, mais je pense que, évidemment, la transition s'est opérée il y a bien plus longtemps encore, au moment où les premières prémices de la crise du disque, notamment, sont apparues, et on a compris que l'industrie allait être profondément bouleversée, ce qui est plutôt une bonne chose. Néanmoins, le fantasme de la vieille industrie demeure assez présent aujourd'hui, et moi, étant gérant d'un label, que je n'ai pas cité d'ailleurs, mais ça s'appelle Microculture, j'aurais dû commencer par là, bien qu'étant gérant d'un label, je passe une bonne partie de mon temps à discuter des sollicitations d'artistes qui sont à la recherche d'un label. Et je leur dis, mais finalement, est-ce que c'est vraiment de ça dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment... Déjà, qu'est-ce que vous voulez vraiment quand vous dites... je recherche un label, je veux une signature, un contrat, une signature sur un contrat. Bon. Qu'est-ce que vous entendez par là et est-ce que c'est vraiment la réponse à vos besoins? Parce que finalement, la plupart de ces artistes avec qui je discute, dans le cours de la discussion, je me rends compte que leur besoin, c'est de faire les choses. Leur besoin, c'est d'avoir les moyens de réaliser leurs ambitions, qui sont parfois très simples, très concrètes, qui sont de fabriquer un disque, de le mettre en rayon, de le diffuser, de faire des concerts, de se faire connaître. Enfin bref, ça peut revêtir tout un tas de réalités. Mais finalement, il y a un peu l'illusion d'une vieille époque où l'artiste ne pouvait pas faire toutes ces choses tout seul, où c'était peut-être mal vu ou que sais-je. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, ou du moins, moi, j'encourage les artistes à se décomplexer sur ce sujet et au contraire à devenir auto-producteurs, auto-entrepreneurs quelque part de leur propre carrière, de leur propre œuvre. Et aujourd'hui, j'ai un peu tendance, avec le recul, à considérer que ma vocation ou mon métier, c'est précisément d'encourager des vocations d'artistes entrepreneurs. Donc en leur donnant des outils. Outils de financement, certes, outils d'accompagnement, en leur produisant des conseils, en les guidant, en les accompagnant, en leur facilitant la tâche aussi pour des questions de réseau, etc. Ça c'est notre rôle. Mais finalement, moi-même dans ce rôle-là, je ne pourrais être efficace que si en face j'ai quelqu'un qui a la volonté, l'élan, l'enthousiasme, un peu comme un entrepreneur ou comme un créatif face à son œuvre en devenir. Et le profil des artistes, parce que ce qui est assez intéressant, il me semble, c'est que pour moi, il y a des vraies passerelles entre du coup la démarche entrepreneur telle que moi je l'ai expérimentée depuis 6 ans et qui n'a pas été particulièrement évidente, j'imagine comme n'importe quel entrepreneur. Mais entreprendre dans la culture, c'est deux confrontations. Enfin, c'est une confrontation de deux mondes qui se parlent pas très bien, je trouve. Et on est souvent propulsé de l'un à l'autre. En gros, le monde de la culture peut vous rejeter parce que vous êtes trop dans le monde du business. Le monde du business peut vous rejeter parce que votre truc, c'est pas sérieux, etc. Au commencement de Microculture, mon intention, c'était vraiment de développer un modèle qui... un de mes maîtres mots, c'était Peut-être l'exigence et aussi l'indépendance. J'étais très attaché à cette idée, à titre personnel, et aussi pour les artistes et pour les porteurs de projets avec qui on souhaitait travailler, c'était leur donner les moyens de leur indépendance. Et donc cette indépendance, pour nous, je me suis rendu compte qu'elle avait un vrai prix. Ce n'était pas évident de le payer, notamment d'un point de vue financier. Finalement, développer son entreprise avec en totale indépendance d'investisseurs ou de moyens financiers un peu conséquents, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'endurance et de conviction et de patience. Les choses vont jamais aussi vite qu'on le pense ou qu'on le souhaite. Et effectivement, je me suis souvent heurté à des murs liés à un statut qui est vraiment hybride entre le monde de la culture où il ne fait quand même pas très bon parler argent, en disant des choses un peu clairement. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'un rendez-vous au ministère de la Culture il y a quelques années, où on leur expliquait un peu notre modèle qui me semblait intéressant et qui me semblait pouvoir les intéresser eux. Et en gros, on est ressorti du rendez-vous avec... on nous a opposé le fait que ça marchait déjà trop bien pour qu'ils s'intéressent quelque part. Ce qui m'avait vachement surpris, parce que moi j'avais pas l'impression que ça marchait spécialement si bien que ça. Et évidemment, l'idée c'était un peu de développer, d'avoir une démarche entrepreneuriale, de passer la marche, le cap d'après. Mais le monde de la culture nous opposait à quelque chose on est là pour vous aider, on est là pour vous aider à survivre, sous-entendu, mais pas pour vous donner les moyens de vous développer et de passer un cap. En revanche, le monde de l'entreprise, il y a énormément de possibilités et de guichets auxquels on peut s'adresser pour développer son entreprise quand on vient de lancer une PME. Bon, ce dont je me suis aperçu d'ailleurs un petit peu tard, après la date fatidique des 3 ans, donc ça n'a rien facilité. Mais ce monde-là, pour le coup, on ne rentrait pas vraiment dans les cases non plus, parce que on est déjà un modèle un petit peu hybride. Alors, vous allez voir une banque en leur disant Internet, musique, crowdfunding, je pense que c'est un peu l'horreur. Et la plupart des banquiers que j'ai vus, évidemment, c'était un monde qui était complètement différent du leur, les mots-clés n'étaient pas les bons, très clairement. Mais quand même, dans le lot, j'en ai rencontré aussi certains qui avaient une certaine curiosité, une certaine soif de comprendre, et avec qui il y a une vraie discussion possible, ce qui était très agréable. On a toujours été un peu renvoyé d'un monde à l'autre sans vraiment trouver la bonne place. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette aparté. Toujours est-il que pour moi, la vocation aujourd'hui de Microculture, c'est justement peut-être effectivement d'accompagner des artistes, mais effectivement accompagner des artistes qui ont l'envie d'être accompagnés et qui nous montrent aussi cette envie d'accompagner. Pour moi, c'est l'outil qu'on a créé, c'est vraiment un portail d'accompagnement, un portail de production, de fait, mais qui doit se nourrir un peu de l'énergie que nous renvoient nos partenaires et nos artistes, et les artistes avec lesquels on travaille, notamment. Et ce qui est assez surprenant et ce que je trouve assez stimulant dans le constat que j'ai fait à plusieurs reprises, en fait, c'est que les artistes avec qui on travaille peuvent se découvrir eux-mêmes un profil qu'ils s'ignoraient. On revient un peu à Socrate et connais-toi toi-même en enfance, mais c'est assez drôle, en fait, dans l'exercice de la création artistique, certains peuvent avoir un profil particulier, une forme d'austérité, de pudeur, de réserve, etc. Mais ces mêmes artistes, dans un exercice d'exposition de leur œuvre, et c'est un peu ça qu'on leur demande, nous, c'est de faire la démarche aussi de pouvoir vendre finalement leurs œuvres, vendre leurs créations et trouver eux-mêmes leur public. C'est ce qui n'est évidemment pas facile, mais c'est en même temps une problématique à laquelle ils seront toujours confrontés en tant qu'artistes. En tout cas, dans cet exercice-là, les mêmes qui pouvaient être très réservés, taciturnes, etc., se révélaient des espèces de monstres marketing. Parfois même, il y avait une métamorphose étonnante et pas toujours très heureuse d'ailleurs, mais parfois assez, pouvait être assez surpris. Mais parfois, ça pouvait donner lieu à des surprises un peu déstabilisantes et parfois à des vraies bonnes surprises où certains, et je pense notamment à une artiste qui était à la fois musicienne et comédienne, qui avait l'expérience du théâtre, etc., qui s'est en fait découvert une forme de nouvelle, enfin, je dirais pas nouvelle passion quand même, mais en tout cas un rôle qui lui a énormément plu dans la façon d'imaginer des moyens de diffuser en fait ses propres œuvres, de vendre son propre travail d'artiste. Et pour elle, c'était une espèce de, c'était une forme d'épiphanie ou de révélation de se retrouver par la contrainte financière et par le besoin de se donner soi-même les moyens d'y arriver. En fait, elle s'est retrouvée en position, dans une position qu'elle n'aurait pas soupçonnée, où elle était en fait très, très forte, très efficace, et qui lui plaisait. Et qui, évidemment, comme ça lui plaisait à elle, ça plaisait aussi à son public, etc. Et c'était une autre forme de créativité, d'ailleurs, que d'attirer l'attention et le regard du public sur l'œuvre en devenir, dans sa partie un peu coulisse, qui est prétendument pas, peut-être un peu moins glamour que l'œuvre terminée. Donc là, je parle de la partie un peu technique de l'enregistrement, les coulisses, en fait, de l'œuvre d'art à venir. Voilà, en quelques mots sur mes coupures, et puis je termine sur le ce qui m'amène ici, en fait, c'est effectivement mon arrivée à Poitiers l'été dernier, en fait, après quelques années donc, d'entrepreneuriat à Paris et 15 ans de vie personnelle à Paris, j'ai emménagé à Poitiers en août dernier, ce qui m'a amené notamment à rencontrer Jackie et puis aussi pas mal d'autres acteurs de la scène, je dirais, scène culturelle locale, ce qui, je trouve, est très stimulant. J'ai peut-être terminé sur ce constat qui est très subjectif, sans doute, mais que moi je trouve très positif, c'est qu'il y a, de mon point de vue, une vraie, un vrai fourmillement, une vraie culture du réseau et de l'entraide aussi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas je commence à percevoir quelque chose comme ça, entre les différentes structures culturelles d'accompagnement qui existent dans la région, en tout cas dans la ville, à Poitiers. Et moi, sans du tout forcer les occasions, forcer les choses, je suis amené à rencontrer de manière un peu hebdomadaire quasiment des gens qui me renvoient vers d'autres, qui parlent à d'autres, etc. Je suis sollicité de façon assez spontanée. Et je sens qu'il y a un potentiel de partenariat, d'événements organisés, de choses à imaginer, tout un tas de dynamiques à trouver, peut-être des synergies ou que sais-je, des choses à inventer aussi certainement pour la suite. Mais en tout cas, c'est une atmosphère de travail et un ancrage local, pour le coup, que moi, je n'avais pas du tout expérimenté quand j'étais à Paris, vraiment dans le plein centre République, au beau milieu de la vie culturelle probablement, mais c'est aussi au milieu d'une jungle qu'il faut un peu dompter. Et c'est pas du tout évident. Et moi, je vais terminer là-dessus en disant que voilà, paradoxalement, le fait de quitter la capitale et le monde de la culture, le fourmillement parisien, pour moi et pour l'entreprise, l'avenir mondial, ce sera peut-être finalement une aubaine. Et c'est assez drôle parce que depuis que je suis arrivé, beaucoup de gens dans mon entourage, parmi mes amis, ma famille ou autres, me demandent alors comment tu fais ça va, une culture, Poitiers, ça va être dur, comment tu fais, tu travailles à distance alors. Je ne sais pas trop quoi répondre en fait à ça, parce que j'ai jamais travaillé à distance, ni à proximité, que ce soit en fait, le travail que je fais, je peux le faire avec une prise de courant et un réseau Wi-Fi et un smartphone, bien sûr. Finalement, je pourrais le faire à Paris, à Poitiers, à Toulouse ou à l'étranger, je pense que ce serait à peu près la même chose, sauf que, évidemment, je le fais en priorité avec les gens qui sont aux alentours et on se crée un réseau qui n'est peut-être pas le même. Mais c'est étonnant le nombre de gens en fait, qui ont employé cette formule de travail à distance en imaginant que en fait, Paris était la seule ville possible où on puisse développer un projet culturel digne de ce nom. Bon, alors j'espère qu'ils se trompent et j'espère leur prouver qu'ils avaient tort d'imaginer que c'était le cas.
Merci. Et j'ajoute simplement qu'on a eu l'occasion de voir aussi dans l'entreprise de Jean-Marc qu'on a évoqué aussi des possibles projets, ça restera à concrétiser, on verra, comme on a parlé pour le théâtre, etc. Donc vous voyez bien qu'on est dans la co-construction culturelle du lien avec l'entreprise en plein dedans. Et que cette table ronde est aussi faite pour